Je suis juif, sinon par la religion que je ne pratique point, non plus que nul autre, du moins par la naissance. Je n'en tire ni orgueil ni honte, étant, je l'espère, assez bon historien pour n'ignorer point que les prédispositions raciales sont un mythe. Mais peut-être que des personnes s'opposeront à mon témoignage. Chercheront-elles à le ruiner en me traitant de métèque ? Je leur répondrai, sans plus, que mon arrière-grand-père fut soldat en 1793, que mon père, en 1870, servit dans Strasbourg assiégé, que mes deux oncles et lui quittèrent volontairement leur Alsace natale après son annexion au Deuxième Reich. Extrait de L'étrange défaite de Marbloch, texte rédigé pendant l'été 1940.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le 16 juin 2026, Marc Bloch sera panthéonisé. Il appartiendra à cette catégorie des grands serviteurs de la nation. Il se trouve que Marc Bloch est à la fois un très grand historien, mais évidemment je ne suis pas sûr que ce soit cette qualité qui vaille l'honneur d'entrer au Panthéon, mais ce fut aussi un patriote et un résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous propose donc aujourd'hui de parcourir un peu à la fois sa carrière, son parcours intellectuel, et puis ce moment clé où il laissa la vie pendant l'occupation. Marc Bloch est né le 6 juillet 1886 dans une famille de juifs alsaciens, mais qui avait choisi en 1871 la France et qui avait quitté donc l'Alsace annexée à l'Empire allemand. Il est le fils de Gustav Bloch et de Sarah Epstein. Gustav Bloch est une des grandes figures de l'historiographie du XIXe siècle, puisqu'il est un des maîtres de l'histoire romaine en son temps. Il est donc issu d'une famille d'intellectuels. Il entre lui-même en 1904 à l'école normale supérieure et en 1908, il est agrégé d'histoire, il est même reçu à la troisième place de l'agrégation. Comme il est germaniste et qu'il estime que l'école historique allemande est extrêmement importante, il va séjourner pendant 2 ans à l'université de Leipzig, puis à l'université de Berlin, avant d'être membre de la fondation Thiers. Il devient professeur de lycée à Montpellier en 1912, il enseignera à Amiens en 1913, et puis en l'été 1914, lorsque éclate la Première Guerre mondiale, il est mobilisé comme sergent d'infanterie. Il va faire une guerre extrêmement courageuse, il reçoit la Croix de guerre et la Légion d'honneur en 1919. Marc Bloch, à la suite de la guerre, se marie avec Simone Vidal. Ils formèrent un couple extrêmement proche, extrêmement amoureux. Ils eurent 6 enfants et véritablement, c'est un couple fusionnel. Alors fusionnel tel qu'on l'entendait dans l'entre-deux-guerres, parce qu'on sait par exemple que c'est Madame Bloch qui souvent tapait les cours ou les articles de Monsieur Bloch. Il est chargé de cours à l'université de Strasbourg pour la période médiévale. Il soutient une thèse en 1920 intitulée « Rois et serfs », un chapitre d'histoire capétienne, où il s'interroge sur le lien entre le pouvoir royal, les serfs et l'affranchissement, la politique d'affranchissement menée par la couronne. Mais il se fait remarquer en 1924 par un livre qui reste aujourd'hui encore un des classiques de l'histoire médiévale, « Les rois thaumaturges ». Il étudie cette religion royale, cette mentalité qui, véritablement, à partir du XIIIe siècle, va faire du roi de France un roi thaumaturge capable de soigner des maladies. En 1929, Bloch, avec un maître, Lucien Febvre, va fonder la revue Annales d'histoire économique et sociale. Je n'ai pas le temps de développer, mais il est évident que cette nouvelle revue va profondément marquer un renouveau historiographique qui s'intéresse, comme son titre l'indique, à des problématiques liées à l'économie et à la société. Et d'ailleurs, en 1931, il va publier un livre important, « Les caractères originaux de l'histoire rurale française ». Sa carrière se poursuit dans les années 30. Il échoue à l'élection au Collège de France à deux reprises, mais par contre, en 1936, il devient maître de conférences en histoire économique à la Sorbonne et obtient une chaire de professeur deux ans plus tard, toujours sur cette étude de l'économie et de la société médiévale. Il publiera d'ailleurs en 1939-1940 « La société féodale » que l'on peut trouver encore aujourd'hui en livre de poche. Au moment du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, Marc Bloch décide, malgré son âge, et alors qu'il aurait pu s'en passer, de s'engager dans l'armée française. Il est à ce moment-là capitaine, il va participer à la campagne du Nord, il est évacué en Angleterre, mais revient sur le territoire national. Il va être exfiltré de la Sorbonne et il va être détaché à l'université de Strasbourg. Mais attention, l'université de Strasbourg qui s'est repliée à Clermont-Ferrand. Et effectivement, l'Alsace est quasiment annexée au Troisième Reich et donc il s'agit de permettre à cette université de vivre, mais en zone libre. Il va rédiger un livre important de réflexion sur la défaite qu'il a vécue de près, l'étrange défaite, que l'on trouve là encore aujourd'hui très facilement dans la collection Folio. Mais il va être victime du statut des Juifs du 3 octobre 1940 qui le prive de son poste d'enseignant. Cependant, après diverses interventions d'historiens, il est relevé de sa déchéance pour, je cite, « service scientifique exceptionnel ». Et en 1941, il est affecté à l'université de Montpellier. Il va passer à la clandestinité en 1943, quand la France sera totalement occupée. S'ouvre alors une période riche, terrible, mais qui fait de lui un résistant authentique. En effet, Marc Bloch va s'engager dans le groupe Franc-Tireur. Il va entre autres s'occuper du journal, mais va faire aussi toute une série d'activités de résistants. Seulement, cette vie clandestine va connaître un épilogue quand, le 8 mars 1944, il est arrêté à Lyon. Et il va être enfermé dans une prison célèbre, je dirais tristement célèbre, à Lyon. C'est la prison Montluc, où sévissait Klaus Barbie. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il n'est pas mis dans le bâtiment réservé aux Juifs. Or, on s'aperçoit très vite qu'il est juif, mais il est placé plutôt dans le bâtiment des résistants parce qu'on pense qu'il a des choses à dire et qu'il faut lui faire avouer des secrets qui seraient utiles pour la Gestapo. Klaus Barbie va d'ailleurs le torturer. On sait qu'on va lui casser un poignet, on va lui défoncer les côtes, et également il va subir la torture de la baignoire avec de l'eau glacée. Pendant très longtemps, on a estimé que Marc Bloch n'avait strictement rien dit. À vrai dire, des archives montrent qu'il a parlé, mais il faut que je m'attarde quelque peu sur ce moment où il parle. En effet, l'historien Henri Michel avait reçu en 1961 des archives qu'il avait classées documents confidentiels à ne pas ouvrir avant l'an 2000. Et ce document était la copie de l'interrogatoire prise par un FFI lors de la libération de Lyon. Et donc, il avait copié le document allemand qui montrait que Bloch avait parlé à ses tortionnaires. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il parle pour ne pas dire grand-chose. En fait, beaucoup de résistants ont dit des choses pour arrêter la torture. Qu'a dit Bloch ? Il donne son vrai nom. Il donne sa vraie profession, professeur d'histoire. Et puis, il avoue une série de détails. Par exemple, qu'il aurait eu des contacts avec deux collègues de l'université, le professeur François de Menton et le professeur Tedjen. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que ces deux hommes qui auraient été donc à l'initiative de sa résistance ne sont pas joignables par les Allemands, si j'ose dire, puisqu'ils se trouvent à Alger. Donc ils donnent des détails qui ne mettent en danger aucunement les deux personnes. De même, il affirme à la Gestapo que le groupe franc-tireur serait dirigé par un triumvirat composé d'Emmanuel d'Astier-Lavigerie et également d'une autre personne extrêmement connue dans les milieux de la résistance, Henri Freinet. Mais tous deux sont également auprès du général de Gaulle à Alger. Donc cet aveu ne fait courir aucun risque. Et puis il dit qu'il connaît aussi un homme, seulement sous son pseudonyme, de Gilles. Il le décrit, l'âge, la taille, la physionomie, mais à vrai dire c'est tellement banal que ça ne peut pas franchement aider les membres de la Gestapo. Donc en fait, Marc Bloch a parlé, mais comme on parlait beaucoup de résistants, pour arrêter les coups, mais pour ne dire pas grand-chose. Et les Allemands vont décider que finalement, il a peu d'utilité désormais. Et le 16 juin 1944, il va être fusillé avec un autre groupe de jeunes résistants dans une commune de l'Ain, à Saint-Didier de Formans. Je voudrais, pour terminer cette chronique, lui redonner la parole, parce que Marc Bloch écrivait, alors qu'il était entré en clandestinité, un poème à sa femme Simone. Le voici. « Mon amour, hélas, mon cher amour, me faudra-t-il partir cette année pour le grand voyage sans retour et te laisser seul, mon aimé ? Mon amour, hélas, mon pauvre amour, la route parfois fut malaisée, le fardeau par moments nous fut lourd, mais nous étions deux, ô mon aimé. » Alors si je devais donner un dernier conseil à propos de ce qu'il faut lire de Marc Bloch, je voudrais citer son livre « Apologie pour l'histoire » que tout étudiant d'histoire, tout enseignant, même les plus chevronnés, doivent lire pour comprendre ce que c'est que l'éthique et le travail d'historien.